Bonjour Patrice, émission spéciale lutte ouvrière dans Vivre Ensemble, comme chaque année, c'est notre rendez-vous rituel avec les organisateurs de cet événement festif mais politique également qui se tient à la salle Mosaïque sur la commune de Saint-Priest. Je rappelle qu'il y a la commune d'implantation de Radio Pluriel, ça se tient sur deux jours comme chaque année, c'est les 24 et 25 septembre, donc samedi prochain et dimanche prochain à l'espace Mosaïque à Saint-Priest, c'est sur la route d'Hérieux, rue qui s'appelle maintenant rue Aristide-Briand, non loin du centre-ville. Et il y aura des débats, de la politique bien entendu, et puis un volet un peu plus festif avec de la musique, des stands d'exposition, de la restauration. Le prix d'entrée, je m'adresse à mes invités, oui. Cyril et Michel. Alors Cyril.
Oui, bonjour. Donc la fête, c'est effectivement là le week-end prochain. Donc c'est 7€ pour les deux jours.
Pas plus.
Voilà. Donc c'est une fête qui se veut une fête populaire, quoi, pour les travailleurs. Alors, comme effectivement il y a plein d'aspects festifs et puis plein d'aspects politiques. Il y a Nathalie Arthaud, notre candidate à l'élection présidentielle, qui vient le samedi.
C'est le discours de clôture.
De clôture.
Enfin ouverture, en tout cas, c'est pas loin de la fin. C'est le dimanche après-midi comme d'habitude.
Alors non, ça c'est non. L'allocution. Ça sera Vincent Boutani, un de nos camarades là, qui
travaille. Ah oui, Vincent Boutani. Oui.
Et samedi c'est Nathalie Arthaud qui
viendra
à 20h30.
Voilà, c'est ça. Donc habituellement, c'était plutôt, elle intervenait plutôt le dimanche après-midi.
Oui, de temps en temps, c'était plutôt le dimanche après-midi.
Et là, il y a une nouvelle répartition des rôles. Alors, bon, cet événement annuel intervient dans un contexte politique, social, économique qui se détériore d'année en année. Il y a un certain nombre de dossiers importants que dont le gouvernement français a la charge, le gouvernement de François Hollande, le gouvernement socialiste. Les médias s'intéressent beaucoup plus aux états d'âme des hommes politiques plutôt qu'au véritable contenu des dossiers, à l'état des lieux. On va prendre comme exemple ne serait-ce que la santé, le scandale des urgences. Je pense que tant que ces gens-là ne seront pas passés dans le service d'urgence hospitalière, et ils ne comprendront pas qu'il y a un vrai problème et qu'il y a un besoin d'allocation de moyens. Ce n'est qu'une illustration du gros dossier de la santé et de la précarité et qui s'accroît de jour en jour. On est sur des gestions qui sont de plus en plus tendues, avec du personnel hospitalier qui est au bout du rouleau. Tout ça au nom du rétablissement des comptes de la sécurité sociale, parce que manifestement il y a un problème de financement. Alors, on peut parler aussi de l'éducation, on est en période de rentrée scolaire, du logement, c'est-à-dire le mal-logement. Essentiellement, on construit à tour de bras, on a un urbanisme galopant dans les métropoles françaises, particulièrement à Lyon, et c'est pas pour autant que le mal-logement est résorbé. On va parler bien entendu aussi de la situation de l'emploi, du chômage, et puis de ceux qui prétendaient régler la situation par le journal officiel avec une loi, la loi dite travail. Que pensez-vous donc de ce panorama, messieurs Michel et Cyril?
Michel. Déjà sur la santé, c'est vrai qu'il suffit de voir qu'il y a une grève en ce moment aux urgences de la clinique de Vénissieux, les portes du sud, parce que justement le personnel en a complètement marre d'être comme ça. Enfin, ils ont des conditions de travail qui se dégradent, et ça c'est une vérité dans tout le pays.
Là c'est l'hospitalisation privée.
Oui, mais c'est les mêmes conséquences.
Il y a un service d'urgence, qui a une convention avec l'État,
qui reçoit tout le monde, qui reçoit tout le monde, et dans tous les, que ce soit dans le public ou dans le privé, on fait faire avec beaucoup moins de personnel. Mais ça, il suffit pas. Malheureusement, il suffirait pas que les politiciens ils se rendent dans des urgences ou qu'ils se rendent compte, parce qu'en fait, c'est une politique qu'ils mènent, et leur politique. C'est pas eux qui subissent les conséquences, c'est sûr, mais cette politique de toute façon ils la mèneront, parce que cette politique c'est de prendre tous les sous qui sert au service public pour les passer au patronat. On voit chaque année, c'est plusieurs milliards qui sont distribués aux grands patrons, que ce soit par le crédit impôt recherche ou le CICE. C'est vraiment des sommes énormes, et ces sommes qui sont versées à fond perdu, parce que soi-disant pour développer l'emploi, alors qu'on voit tous les plans de licenciement qui succèdent, sans parler, enfin voilà, d'Alstom, de Philips, tout ça, c'est vraiment à fond perdu. Mais voilà, tous ces sous, ils sont plus dans les caisses de l'État, et il faut bien que l'État, il les trouve quelque part. Il les trouve justement dans ce qui pourrait servir au service public, ce qui pourrait servir aux gens. Voilà, donc c'est une politique qui mène. C'est un choix qu'ils ont fait, et ça, on voit que l'alternance politique règle pas le problème, que ce soit la gauche ou la droite. Finalement, dans le domaine social et économique, ils mènent tous la même politique, c'est-à-dire s'en prendre aux travailleurs, faire passer des lois, s'attaquer aux services publics, faire passer des lois qui dégradent la condition des travailleurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, mais aussi dans les usines. Vous avez parlé de la loi travail, c'est vraiment l'exemple d'une loi qui permet au patronat de faire régresser les droits des travailleurs sur plusieurs décennies de conquêtes ouvrières. Donc là-dessus, c'est vraiment un choix politique que nous, enfin justement, dans la période qui vient, comme vous avez dit, ça va être une période très politique, parce qu'il y a les élections présidentielles qui approchent, et Nathalie Arthaud, qui sera donc présente le samedi à 20h30 à notre fête, elle sera notre candidate aux élections, et justement pour défendre un programme de défense du monde du travail face à toutes ces attaques qui sont les mêmes, que ce soit de la gauche, la droite, et puis de l'extrême droite aussi d'ailleurs. C'est toujours s'en prendre aux travailleurs et servir les plus riches, parce que finalement, comme la loi travail, on le sait, c'est évident que c'est le MEDEF qui en est l'inspirateur, et puis finalement le gouvernement, il fait que appliquer les desiderata du patronat qui est jamais satisfait, parce qu'à peine la loi travail passée, ils disent qu'ils en veulent encore toujours et toujours plus, raison de plus pour se battre et continuer à se battre contre la loi travail, parce que c'est pas la dernière des lois qui va sortir contre le monde du travail, quoi.
À propos de loi travail et de lutte, on a compté combien, 14 manifs organisés par les syndicats. On a l'impression que les jeux sont faits, puisque il y a des décrets d'application qui vont être publiés, qui vont s'échelonner sur les 6 prochains mois. Et quelle stratégie préconisez-vous maintenant pour faire obstacle à ces mesures?
Déjà, pour revenir sur ce mouvement-là, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous dites c'est plié parce que les décrets d'application vont être votés, ce qu'il faut voir déjà, que c'est un mouvement qui dure depuis le mois de mars, et puis c'est la première réaction du monde du travail à des lois qui s'attaquent à lui, parce qu'il y a eu avant les lois Macron, qui ont un autre nom maintenant, je ne sais plus exactement, la sécurisation de l'emploi, il me semble, il y a eu les lois Rebsamen. Toutes ces lois-là, elles sont passées presque inaperçues, et là, pour la première fois, il y a une réaction du monde du travail, et elle a été quand même impressionnante dans la durée, parce que comme vous le dites, il y a eu 14 manifestations à peu près, ça a commencé au mois de mars, il y en a eu encore le 15 septembre où il y avait encore du monde. Ça, c'est un premier gage pour l'avenir, parce que ça veut dire que dans la classe ouvrière, il y a des gens qui en ont marre de subir et qui sont prêts à se battre. Et ça, c'est vraiment important pour l'avenir, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le patronat ou que ce soit les gouvernements en place, Macron, quand il était encore au gouvernement, la loi travail n'était pas encore adoptée, qui disait qu'il en faudrait de toute façon une qui aille encore plus loin. On sait très bien que dans les cartons de Sarkozy et consorts, il y a des lois qui s'attaqueront aussi au monde du travail. Donc ça, c'est quand même déjà une première victoire, c'est le fait qu'il y ait eu une réaction. Une réaction du monde du travail, malgré que ce soit un gouvernement de gauche qui soit à la tête du pays, qui est souvent, justement, malheureusement, une façon de faire passer des mesures pour les patrons, et qui démoralise les gens qui ont voté à gauche en pensant que ça serait moins pire que Sarkozy, par exemple. Donc voilà, ça c'est la première victoire, c'est qu'il y a eu un mouvement et que ce mouvement il est duré et que on se dit que pour le futur il y aura des gens qui résisteront aux futures attaques d'où qu'elles viennent. Maintenant, je pense que tant que les décrets de loi sont pas passés, on peut toujours se battre contre cette loi. Il y a quand même l'exemple du CPE dans le passé où la loi avait été votée et puis jamais promulguée. Voilà, c'est toujours le cas. On peut toujours se battre contre ça. On peut se battre contre ce qui va s'appliquer dans les entreprises très rapidement, parce qu'on voit très vite que les patrons, ils attendent, ils ont déjà plein de lois à leur service. Ils attendent même pas cette loi pour faire des sales coups, mais ça va leur donner encore plus de possibilités de faire des sales coups. Et il faut se battre aussi parce que, comme je l'ai dit, je le redis, il y a d'autres lois en préparation et qu'il faudra se mobiliser contre tout ça. Donc c'est pas un combat perdu. C'est justement la première réaction du monde du travail depuis au moins 4 ans d'attaque, quoi.
Ça vous arrive d'avoir des échanges, des dialogues plus ou moins courtois avec des représentants du PS? Vous les rencontrez dans des lieux de diffusion de tracts où il y a des gens qui circulent, les marchés forains, parce que ça, c'est un endroit où vous êtes très présent. Il y a des fois des accrochages entre vous, des discussions politiques?
En fait, vous savez, les gens qui ont voté PS, les gens on va dire de gauche, etc., nous, on en rencontre tout le temps, et ce qui est frappant, c'est que là, ils sont écœurés. Profondément écœuré. C'est-à-dire que Hollande, il a réussi à dégoûter, y compris son propre électorat. Et nous, le problème, y compris qu'on se pose là, par exemple, ce que ça va être la campagne présidentielle, eh ben, une bonne partie de ces personnes, notamment dans les milieux populaires, eh ben, ce qu'ils se disent, ben voilà, je suis écœuré, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y en a certains qui vont chercher un nouveau sauveur suprême. Mais il y en a beaucoup qui vont se dire, bah, moi je vais m'abstenir, parce que finalement tous ces politiciens ça change rien. Et nous, ce qu'on a envie de leur dire, bah non, il faut continuer à s'exprimer. Par exemple, tout le mouvement sur la loi travail, ça montre qu'il y a des travailleurs qui se sont exprimés, qui ont pris la parole. Et nous, le sens notamment de la candidature de Nathalie Arthaud, c'est pour dire ça. C'est pour dire qu'il faut continuer à exprimer nos intérêts, exprimer notre ras-le-bol, dire qu'on en a. Ça suffit, quoi, ces bas salaires, les licenciements et tout ça. Toute cette politique, en fait, que Hollande a menée dans la continuité de Sarkozy, qui consiste à servir les intérêts des grands groupes, eh ben, on n'en veut plus. Et les gens de gauche avec qui on arrive à avoir ces discussions, eh ben, souvent, on arrive à les toucher. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que les gens, par exemple, qui avant pouvaient nous engueuler vertement par rapport au Parti Socialiste, parce qu'évidemment, nous, on l'a toujours critiqué, en 2012, on n'a pas appelé à voter Hollande, eh ben, aujourd'hui, on a leur oreille. Et ils se posent des questions et ils sont inquiets. Par exemple, ils sont inquiets de la montée du Front National. Et nous, on partage cette inquiétude. Et nous, on pense que voilà, de quoi est-ce qu'il faut qu'on discute, qu'est-ce qui est important pour les travailleurs, en fait, pour défendre leur intérêt.
Je reviens à la position actuelle des militants socialistes. Je pense qu'il doit avoir des états d'âme. Exemple, hier matin, à la foire de Saint-Priest, il y avait un stand du PS. Il fallait vraiment interroger ceux qui le tenaient pour savoir que c'était le PS. C'est discrétion absolue. Je pense qu'ils avaient peut-être un discours, enfin, pas certain, parce que face à des arguments qui les interpellent sur le fond de leur politique, il n'y avait pas beaucoup de réponses. En revanche, d'autres ont un discours vraiment construit. On a l'impression qu'ils ont rassemblé tout ce qu'il peut y avoir de positif dans les effets de leur politique pour le mettre en avant dans un bilan. Ça vous est arrivé d'échanger là-dessus? Et est-ce qu'il peut y avoir encore des convergences avec vous, à part peut-être le rejet du Front National?
Bah, même sur le rejet du Front National, quand on voit que le gouvernement actuel, dirigé par des socialistes, eh ben, il va pêcher dans le programme du Front National certaines mesures qu'ils ont essayé, même si c'est pas passé, la déchéance de nationalité, et puis d'autres thèmes quand même. Enfin, quand on écoute Valls, des fois, enfin, souvent parler des Roms ou des migrants, quand on voit. Enfin, même là-dessus, ce qui faisait encore la différence entre la gauche, c'était pas sur le plan social, c'était sur les sujets on va dire, sociétal, où il y avait une différence parce que la gauche était censée être incarner plus l'ouverture, l'antiracisme et des valeurs comme ça. Là, c'est plus le cas. Enfin, franchement, on a eu quand même une période où le déchaînement. Moi, j'ai l'impression que le Parti socialiste, il roule à droite, et puis du coup, la droite, tout le monde court après l'extrême droite, et la droite, elle double sur l'extrême droite. Pour chacun, c'est la course à l'échalote pour les élections. Mais ce jeu-là de politicien, il est extrêmement dangereux, parce que à force de stigmatiser les gens selon leurs origines ou selon leur religion, à vouloir diviser les travailleurs entre ceux qui seraient musulmans et puis ceux qui seraient français, enfin là ils allument des feux, et puis un jour il y aura peut-être comme en Angleterre, après toute la démagogie sur le Brexit, où on a expliqué que c'était finalement les immigrés qui étaient le problème de l'Angleterre et puis d'Europe, etc. Voilà, et ben, il y a eu des gens qui sont passés à l'acte, qui s'attaquaient à des Polonais. Il y a eu des morts dans ces agressions-là. Ces politiciens-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, quand même, ils jouent sur le même tableau, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils arriveront au pouvoir, qu'ils garderont le pouvoir dans le cas du Parti socialiste, ou qu'ils reviendront au pouvoir comme le cas de la droite. Et ben, ils jouent sur les divisions des travailleurs, et finalement, comme le Front National a le vent en poupe, ils vont tous chercher dans leur programme ce qui peut marcher. Voilà. C'est vraiment nous, la candidature Nathalie Arthaud, justement, c'est pour dire qu'il ne faut pas aussi non plus tomber dans ce piège-là de la division entre travailleurs, qu'on est des travailleurs avant tout, et que c'est en tant que travailleurs qu'il faut qu'on se batte et qu'on défende nos revendications.
Vous pensez, d'après votre analyse de la situation, et que le PS peut survivre à la situation actuelle, et que sa politique ne va pas provoquer une implosion du parti?
Là, visiblement, quand on voit les sondages, Hollande, il est dans le quatrième dessous. C'est ce qui explique aussi qu'il y a toute une ribambelle de politiciens issus du PS, ou encore au PS, qui cherchent, y compris un peu, un échappatoire. C'est comme Cécile Duflot, par exemple, qui a été au gouvernement, et puis qui, d'un seul coup, elle essaye de trouver sa place. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que tous ces politiciens-là, en fait, ils sont en train d'essayer de sauver leur carrière. Donc, du coup, ils vont chercher d'autres pistes. Et ça, nous, on dit, il faut pas qu'on se fasse avoir. Parce que, en fait, ils vont nous ressortir la même tarte à la crème de voter pour la gauche, alors ça sera peut-être pas la gauche plurielle, ça sera la gauche unie ou un autre nom. Et en fait, depuis quasiment 30 ou 40 ans, c'est toujours la même histoire. On a demandé aux gens des milieux populaires de voter pour ces politiciens qui, en réalité, ont mené une politique qui n'était pas celle qui était favorable aux classes populaires. Et tout à l'heure, quand on discutait, on parlait de l'aspect que, effectivement, il y a des gens des milieux du Parti Socialiste ou de gauche qui ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers. C'est sûr, moi, il n'y a aucune raison d'être fier. Et nous, y compris, nous, on est fiers de nos idées. Et on pense qu'il faut être, il faut retrouver cette fierté d'être des travailleurs, la fierté ouvrière. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que la gauche a complètement galvaudé. Nous, on a envie de dire, on est fiers, on est la classe sociale qui fait tourner l'économie, on est utile. Sans nous, les poubelles ne sortent pas, sans nous, les usines ne tournent pas, les bureaux, tout ça, rien ne fonctionne. Et il faut qu'on montre qu'on est fiers de ça, et qu'il faudra qu'on défende nos intérêts, que c'est légitime, en fait, qu'on ait le droit de vivre, de se battre pour les salaires, que, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important, y compris quand nous, on se présente aux élections, on a envie de dire ça. Il faut retrouver cette fierté ouvrière, cette fierté d'être les travailleurs. Et là, pour le coup, c'est sûr qu'on est relativement décalé par rapport aux gens du PS et tout. Et eux, ils sont pas fiers. On a envie de dire, il faut retrouver en fait un vote de classe.
Vous avez une candidature de témoignage à chaque élection. Ce sont plus les idées, c'est plus la fonction tribune de l'élection qui vous intéresse, plutôt que le résultat ou le désir d'avoir des personnalités élues dans les différentes instances. Néanmoins, en raison des graves problèmes que traverse le pays et du discrédit du PS, pensez-vous ramener vers vous des déçus du socialisme gouvernemental Je pense aux militants surtout qui en profiteront pour faire un examen de conscience et peut-être se dire que si on est de gauche, il faut peut-être aller un peu plus loin jusqu'au bout de ses idées et rejoindre des organisations qui se réclament des valeurs de gauche.
Ben, comment dire ? Nous, on ne fait pas qu'une candidature de témoignage. C'est vrai qu'on utilise les élections comme tribune, on défend des idées. Et y compris, on aimerait bien avoir des élus. Alors, voilà, il y aurait un député communiste révolutionnaire dans l'Assemblée. C'est sûr que je peux vous dire qu'on en dénoncerait les choses et on utiliserait ça. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que nous, on méprise. Mais on pense quelque chose qui est plus important, en fait, c'est le fait que s'il y a des centaines de milliers de gens qui se portent sur une voie communiste révolutionnaire, ça va contribuer à la conscience de classe. C'est-à-dire que le problème, on voit bien aujourd'hui, c'est que chaque travailleur est individualisé. On en rencontre en permanence des gens qui se disent « mais je suis tout seul, la société va mal, mais je suis tout seul ». Ben nous, on pense que le fait de se compter sur un bulletin de vote, ça va permettre justement de reconstruire cette conscience de classe, le fait d'appartenir à la même classe sociale, de sentir que si on ne s'organise pas, si on ne se met pas tous ensemble, on n'arrivera pas à gagner.
Alors, ils sont tout seuls parce qu'ils sont dans des entreprises atomisées, des petites structures, ou bien ils ont l'impression d'être des cas particuliers dans l'expression de leur position politique. Je sais pas, je donne un exemple. Dans le 6e arrondissement de Lyon, dans les beaux quartiers, dans certains bureaux de vote, il y avait, bon an, mal an, une ou deux voix pour les candidats lutte ouvrière. C'est à ça que vous faites référence ?
Non, enfin, quand on dit que les travailleurs sont tout seuls, déjà, parce que tous ceux qui sont censés les représenter politiquement, historiquement, c'est-à-dire les partis de gauche, ils ont utilisé leur crédit pour faire passer une politique qui n'était pas la politique qui correspondait à leurs intérêts. Et maintenant, il y a beaucoup de gens, de militants qui ont baissé les bras ou qui ont été démoralisés et qui ne défendent plus d'idées. Il y a aussi le fait que le patronat, il est à l'offensive depuis des années, qui se sert du chômage de masse. Non seulement le chômage, c'est pas une fatalité, mais en plus, c'est une arme dans les mains des patrons pour imposer des conditions de travail vraiment de plus en plus dures et de mater la résistance ouvrière. Mais les gens, ils se sentent seuls aussi parce que ça fait longtemps qui sont laissés de côté. Et en plus, c'est vrai que le patronat, il fait tout pour diviser les gens. Alors, il y a la division entre les différents statuts. Moi, je travaille dans une entreprise, Renault Trucks, où il y a les salariés embauchés, mais à côté, il y a aussi des intérimaires, beaucoup d'intérimaires en production. Je dirais même que s'il n'y avait pas les intérimaires, il n'y a aucun camion qui sortirait des usines Renault Trucks. Il y a des prestataires de services qui sont une autre sorte de d'intérim. Il y a aussi tous les gens des sociétés extérieures. Donc sur un site, il y a plein de contrats différents et ça participe au fait que la classe ouvrière, elle se sont divisées entre plein de sociétés. Mais ça, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que on voit bien que ça, c'est des armes que le patronat, il utilise.
C'est l'externalisation des coûts.
C'est l'externalisation des coûts. Ça, c'est une arme que le patronat utilise. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait contrer. D'ailleurs, dès qu'il y a une remontée des luttes, les gens ils font sauter tout ça. Et ils se rappellent que finalement, on peut être intérimaire, embauché. Voilà. On est tous ouvriers, on est tous travailleurs, on est tous. Voilà. Et donc, ça, les divisions, en fait, le capitalisme, il vit sur la division. Il crée la division. Dès quoi qu'il fasse, il fait tout pour diviser les gens. Parce que justement, son but, nous, on n'a pas conscience de notre force. C'est-à-dire, en tant que travailleurs, souvent, les travailleurs n'ont pas conscience de leur force, parce qu'ils se sentent tout seuls. Mais les patrons, eux, ils ont bien conscience de notre force. Ils savent très bien que le jour où on a une réaction collective, on peut changer les choses. Alors, ce qu'ils font, c'est que de par tous les moyens, de façon consciente ou inconsciente, ils font tout pour nous diviser entre nous. Et là, la campagne actuelle, aussi contre les migrants, les présenter comme dans le Rhône-Alpes, l'accueil de 1700 migrants, ça mettrait en péril, selon Wauquiez et puis d'autres. Ça participe à tout ça. Ça participe à la division entre les travailleurs. Je voulais revenir justement sur la discussion, les gens de gauche qui peuvent se sentir, ou les militants du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, tous ceux qui se posent des questions, de toute façon, ils peuvent venir à la fête discuter s'ils ont... Puisque justement, un des débats qu'on aura, c'est sur le sujet que justement, peut-être que la gauche, le Parti Socialiste va disparaître, mais c'est pas, pour nous, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a un mouvement ouvrier qui renaisse et qui défende les valeurs du mouvement ouvrier. Parce que pour nous, quand même, la gauche gouvernementale, c'est surtout une façon de tromper les travailleurs sur des décennies et des décennies. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est un des sujets de forum qui aura
à la fête. Dont on discutera à la fête, ouais, le dimanche après-midi.
Oui, vous appelez lutte ouvrière, vous avez une stratégie qui manifestement est orientée vers le monde de l'entreprise, vers les ouvriers. Il y a d'autres organisations qui ont choisi une méthode différente pour faire passer leurs idées et pour faire des adeptes. Le monde ouvrier est en mutation. On a parlé de ce fossé qui existait entre les gens qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée, ce qui est de plus en plus rare, et puis tous les précaires qui servent de marge de manœuvre, de variable d'ajustement au patronat. Au sein d'une même entreprise, donc les effectifs sont en diminution, en tout cas les effectifs permanents. Il y a une mutation du travail vers des fonctions de plus en plus tertiarisées, hein, les ouvriers de production. Comment percevez-vous ces évolutions et les possibilités pour vous de faire prendre conscience à cette population laborieuse qu'elle est exploitée? Un col blanc, par exemple, a plutôt tendance à dire « je suis sorti de la production, je fais partie d'une sorte d'élite par rapport à des catégories qui sont dans des boulots plus ingrats ».
Alors ça, c'est un sujet qui est important. C'est, déjà, faut bien voir qu'il y a toute une propagande pour faire croire que la classe ouvrière a disparu. Mais quand on parle de tertiarisation, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que prenez des intérimaires, ils travaillent pour des sociétés de services. Ils peuvent être ouvriers en chaîne. Ils sont comptés dans le tertiaire parce que c'est une société de service. Donc ça, voilà, il y a toute une, parce que c'est toute une propagande quand même derrière de dire la classe ouvrière n'existe plus. Ça, c'est voilà, la classe ouvrière, elle existe. Il faut voir que dans l'histoire, quand même, dans son histoire, la classe ouvrière, le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est pas l'ensemble de son histoire, parce que si on revient aux époques d'avant-guerre ou de 36, ou même plus loin, si on remonte à Germinal, les gens, ils étaient pas en CDI, les travailleurs, ils étaient pas en CDI, ce qui a pas empêché les luttes. Et aujourd'hui, bien sûr que on avait acquis un certain nombre de droits, de choses que le patronat remet en cause. Mais ça, c'est la loi de la chute des classes, c'est-à-dire que quand on se bat pas, ben on recule. Et là, en ce moment, on est en train de reculer. Ça, c'est une évidence. Par contre, la classe ouvrière, c'est surtout une question de conscience. C'est pas une question de statut, c'est une question de conscience. Est-ce qu'on a conscience ou pas d'être de la classe ouvrière? Et c'est là où on revient au rôle du patronat qui essaye d'obscurcir la conscience des travailleurs en essayant de les diviser, en disant, comme vous dites, un col blanc, bah non, moi je suis col blanc, je suis pas un travailleur. Sauf que ces dernières années, quand même, on a vu des plans sociaux se multiplier dans des entreprises où les cols blancs, ils n'ont pas été très, très mieux que les ouvriers. Hein. À Renault Trucks, là aussi, enfin, je ne veux pas parler que de Renault Trucks, parce qu'il y a eu d'autres plans dans d'autres entreprises, mais là, puisque je travaille, je connais un peu plus, il y a eu quand même trois plans sociaux qui se sont succédés, qui concernaient les fameux cols blancs. Et d'ailleurs, ben, quand ils se battent, et ben, finalement, ils utilisent les mêmes armes que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont fait grève, ils ont fait des manifestations, et ils ont bien raison. Alors c'est sûr que le patronat, il essaye de nous diviser. Nous, on essaye de faire prendre conscience que justement, on essaye de ranimer cette conscience de la classe ouvrière. Vous prenez la classe ouvrière de 1936, elle était beaucoup moins nombreuse et beaucoup plus éclatée dans des beaucoup plus petites entreprises que la classe ouvrière actuelle. Il n'y avait pas des concentrations ouvrières comme il y a eu après-guerre. C'est pas une question de statut. Ce qui a fait la différence, c'est qu'en 36, les ouvriers, ils ont pris conscience du fait qu'ils faisaient partie d'une classe sociale et qu'ils avaient des intérêts à se défendre. Et nous, on pense que être ouvrier, c'est en avoir, faire partie de la classe ouvrière. C'est pas une question de statut, c'est pas une question, c'est une question de conscience, d'appartenance à cette classe. Et c'est un combat. Le mouvement ouvrier, il s'est toujours battu pour faire comprendre aux travailleurs qui devaient avoir conscience du fait qu'ils faisaient partie d'un tout. Il y a des périodes comme actuellement où cette conscience elle recule, mais le jour où les gens se battront, elle réavancera à nouveau. Ça, c'est pour nous, c'est une évidence de notre combat.
Il y a des domaines d'ailleurs où la résistance des cols blancs paraît assez efficace. Je pense en particulier au travail du dimanche. Dans certains commerces, les organisations syndicales n'ont pas capitulé face aux demandes patronales d'ouverture en continu. Vous pensez que c'est un point positif de voir que la généralisation de l'ouverture dominicale ne se passe pas comme prévu?
En fait, c'est vraiment évident, on est complètement du côté de ceux, des caissières, de la vendeuse et de tous ceux qui vont refuser de travailler le dimanche, en réalité de voir augmenter la durée du temps de travail. Parce que ce que le capitalisme veut toujours imposer, ça va être de travailler plus longtemps et surtout moins cher. C'est comme ça en fait que en ce moment, le grand patronat il va maintenir ses marges. Et leur problème, ils le répètent sans arrêt, c'est maintenir leur marge, faire plus de profit malgré la crise. En réalité, ils veulent presser le citron toujours davantage. Donc, qu'il y ait des salariés qui refusent de se faire presser, évidemment, et heureusement, il y en a. En fait, quand on regarde, il y a plein de travailleurs qui résistent, alors à leur façon, des fois même à leur échelle, même individuellement, qui vont refuser de faire des heures sup, qui vont refuser. Et ça, nous on pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est à l'agréger. C'est quand on parle de conscience de classe, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on le fasse tous ensemble un moment. Là, quand il y a eu par exemple sur les manifs sur la loi travail, toutes ces manifestations, c'était un début de cette prise de conscience. Parce que finalement, l'esprit de la loi travail, c'est de nous atomiser encore davantage. Notamment, une chose qui est importante, une attaque qui est grave dans cette loi travail, c'est ce qu'ils ont appelé l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc c'est un terme compliqué pour en fait remettre en cause les conventions collectives. C'est-à-dire ce qui avait été obtenu par les grèves de 36. Les grèves de 36 ont imposé le fait que quand on travaille tous dans le même secteur, par exemple de la métallurgie, etc., on a tous les mêmes droits, ça, le patronat, il veut le remettre en cause. Il veut le faire des accords par entreprise, mais même par site, et un jour par atelier, et même par individu.
Là où le rapport de force est plus favorable au patronat.
Exactement, exactement. Et ce rapport de force, en fait, il faut qu'on le reconstruise. Nous, ce qu'on espère en tant que militants, c'est évidemment que tout ce moment, sa loi travail, ce soit le début de ça, ce soit le début de cette reprise, et que tous ceux qui, y compris, résistent quand même individuellement dans leur coin ou avec des petits groupes, on arrive à se battre tous ensemble. Parce qu'en fait, il y a 25 millions de salariés dans ce pays. Donc c'est une force qui est colossale. Et sans ces 25 millions de salariés, qu'est-ce qui fonctionne? On l'a vu pendant le mouvement la loi travail. D'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des travailleurs. Qu'une raffinerie, elle ne pouvait pas tourner sans ouvriers. Que c'était pas les CRS qu'ils allaient envoyer qui allaient faire remarcher les machines. Que c'est pas les CRS qui allaient ramasser les poubelles. Que c'est pas les CRS qui allaient faire conduire les trains. En fait, ils ont besoin de ce qu'on nous on appelle la classe ouvrière, c'est-à-dire tous les ouvriers, les employés, y compris des cadres, etc. Un informaticien, c'est un ouvrier du clavier, c'est rien d'autre. C'est le prolétariat d'aujourd'hui.
D'ailleurs, la Confédération Générale de l'Encadrement s'est retrouvée assez souvent sur plus ou moins sur la même ligne que les organisations ouvrières.
Oui, parce que de toute façon, c'est un constat. C'est-à-dire que les travailleurs des bureaux, les cadres, ils sont traités de la même façon. Ils ont... Le patronat, pour diviser, là aussi, il a dans les entreprises, il a fait des divisions entre les gens, voilà. Mais ça, quand il s'agit de presser le citron, tout le monde y passe. Et l'expression presser le citron, c'est pas un mot comme ça qu'on utilise juste pour voilà. Là, les entreprises du CAC 40, elles viennent d'annoncer leur profit, leur bénéfice sur le début de l'année là. C'est plus de 42 milliards d'argent qui rentre dans leur caisse, alors que le chiffre d'affaires il a baissé de 3%. Alors comment expliquer ce miracle? Le chiffre d'affaires baisse de 3%, mais on augmente de plus de 11% de marge. Et tout simplement, en faisant travailler beaucoup plus les gens, sortir de la même production, moins de production, mais avec beaucoup, beaucoup moins de monde, qu'avant. Et ça, c'est vrai dans toutes les entreprises, dans tous les bureaux. C'est vrai sur les chaînes de montage, mais c'est vrai aussi dans les bureaux où ils suppriment du monde. Et où là où il y avait deux personnes, et ben il y en a plus qu'une qui doit faire le boulot d'eux. Et ça, c'est vrai dans toutes les
entreprises. C'est un objectif qui est commun à toutes les entreprises bien gérées. C'est l'augmentation de la productivité. Voilà. C'est enseigné dans toutes les écoles de commerce.
Oui, oui.
L'étudiant frais et moulu de ce genre d'établissement a comme dogme la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité.
Et on nous explique que c'est pour notre bien, sauf que il suffit de regarder que justement, surtout, plus la crise augmente, plus c'est une vérité. C'est-à-dire que cet argent, il est versé en grosse majorité, voire totalement, aux actionnaires. Vous avez soi-disant, parce que bon, dans les théories, on nous explique qu'il faut des marges pour investir, pour développer l'emploi. Mais ce qu'on voit, tous les chiffres qui sont donnés, de plus en plus, l'argent il va directement dans les mains des actionnaires et il passe même pas par la case investissement. Vous avez des entreprises qui s'engagent à donner tant de millions ou tant de milliards aux actionnaires et qui, s'ils n'y arrivent pas, ils empruntent. Pour pouvoir donner les sous, c'est ce qui s'est passé à Renault Trucks 2 années de suite, où l'entreprise a emprunté pour donner les sous, les dividendes qu'ils avaient promis aux actionnaires.
D'ailleurs, Chemelski, l'ancien Stefano Chemelski, qui était l'ancien PDG de Renault Trucks, a dit publiquement, je ne suis pas là pour faire du social, mais pour augmenter les dividendes des actionnaires.
Au moins, il a la clarté avec lui, mais c'est même quand ceux qui disent qu'ils font du social, c'est vraiment sous de la gueule du monde, parce que c'est vraiment un scandale, quoi. C'est-à-dire qu'on presse le citron, les travailleurs. Enfin, il y a d'un côté des gens qui vont faire des semaines de malade, à faire des heures sup à gogo. On va faire travailler les gens plus de 45 heures des fois. Ils vont être à 30 ans, 40 ans, atteints de plein de maladies qu'on appelle les TMS, tous les troubles musculo-squelettiques. Et de l'autre côté, des gens qui vont pourrir au chômage. Ça, c'est l'avenir que le capitalisme il promet aux gens, c'est-à-dire la surexploitation de ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un boulot, et puis des gens qui sont qu'on laisse pourrir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans des situations de chômage, de précarité, et avec toutes les conséquences qu'il y a sur l'ensemble de la société de cette évolution, quoi. Et ça, c'est vraiment... si on est révolutionnaire, c'est que justement, on pense que cette société-là, elle peut pas durer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on remette les choses à plat et qu'on enlève le pouvoir nuisance de ces grands capitalistes qui vraiment font ce qu'ils veulent. On n'a qu'à voir, par exemple, Alstom.
Le gouvernement français n'a aucune prise. C'est vraiment le cas qui illustre le mieux ce que vos propos actuels. C'est cette méthode radicale utilisée par la direction du groupe pour augmenter les marges. On plie bagages et on va, on ferme une unité de production. On est dans une stratégie qui est purement financière. Et est-ce que les autorités françaises ont une responsabilité là-dedans ?
Ce qui s'est passé cette semaine, c'est vraiment révélateur de la réalité de notre société. Le lundi soir, Hollande dit « Ah non, Alstom, ça ne va pas se passer comme ça ». Et le mardi matin, effectivement, le PDG dit « Non, nous, on s'en moque ». On veut fermer une usine, on la ferme. Alors, en réalité, c'est que Alstom, c'est une entreprise, mais qui a énormément d'argent, qui a un chiffre d'affaires de 6 milliards, qui aurait des moyens de maintenir ses emplois. Qu'est-ce que c'est 500 emplois pour Alstom ? C'est rien du tout. Le gouvernement, ils ont donné des dizaines de millions d'euros de crédit d'impôt à cette entreprise. Rien que cette somme, ça permettrait aux 500 personnes de Belfort de garder leur boulot. Et y compris, il faut imaginer, quand c'est 500 personnes qui sont licenciées, c'est pas que les 500 familles qui sont touchées. C'est qu'autour, ça va être le petit commerce, les artisans, c'est toute une région qui peut être sinistrée. D'ailleurs, les craintes de ce qu'on a entendu à la radio, etc., c'est ça, c'est que ça soit tout bousillé. comment dire, on a beaucoup vu de salariés qui étaient désespérés d'Alstom. Mais moi, j'aurais envie de leur dire, c'est pas être désespéré, il faut être révolté. Et il faut qu'on impose de garder notre boulot. Peu importe, en fait. Même, à la rigueur, Alstom, c'est peut-être qu'ils vendent moins de trains. Et alors, c'est sûr, la SNCF, l'État donne de moins en moins d'argent. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'ils renouvellent, en fait, leur train? C'est peut-être pas possible. Mais nous, à la rigueur, on n'a même pas forcément envie de discuter de ça. On a envie de dire, on est des travailleurs, on vit notre boulot, et ben, il faut qu'on le garde. Et à tout prix. Et ben, les travailleurs d'Alstom, il faudra qu'on arrive à se battre pour ça, comme ça. Et puis, même à l'échelle bien plus large, de se battre, nous, on pense qu'il faut interdire les licenciements. Que c'est scandaleux que ces grands groupes ils licencient comme ça. Voilà, effectivement, c'est des financiers. Ils ont une feuille. De façon comptable, on raille du papier comme ça, des centaines de gens. Ben ça, c'est scandaleux. Il faudra l'interdire. Il n'y a pas d'autre choix. Et répartir le boulot. Parce qu'effectivement, entre ceux qui suent au boulot et ceux qui n'arrivent pas à vivre au chômage, c'est quelque chose qui est complètement dingue.
Il y a d'autres aspects de la crise qui se manifestent dans la vie quotidienne des habitants de ce pays, et particulièrement des plus modestes. Le logement. Comment analysez-vous aussi ce problème de milliers de personnes qui sont dans l'attente d'un logement social, d'un logement décent aussi, parce qu'il y a un vrai besoin, si elle est mal logée, mais qui, paradoxalement, ont des revenus qui permettent même pas, d'accéder au logement social.
Ben, un des problèmes dans le capitalisme, c'est qu'en fait, on ne produit que ce qui peut se vendre, ce qui peut ramener un profit. Et c'est sûr que le logement social, loger des ouvriers, des travailleurs, des gens qui n'ont pas une paye mirobolante, c'est pas intéressant du point de vue des capitalistes. C'est pour ça que, effectivement, à Lyon ou à Villeurbanne, on voit des logements qui se construisent. Mais c'est pas des logements qui sont accessibles, en fait, à ceux qui en ont vraiment besoin. Et en fait... Mais ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Le capitalisme, en fait, il se moque de cet aspect-là. Le problème, nous, on pense, ce qu'il faut qu'on impose, c'est de construire massivement des logements sociaux, que l'État, au lieu de donner de l'argent, par exemple, à Dassault pour acheter des Rafales, etc., eh ben, il faudra lancer un vrai programme pour construire des logements sociaux. Je veux dire, pour un exemple, en 1962, quand les pieds noirs sont arrivés d'Algérie, on a réussi à construire 1 million de logements. Eh ben, aujourd'hui, on pourrait bien construire bien plus de logements et de bonne qualité. En fait, c'est des problèmes de choix. Et ça, il faudra imposer que l'argent, il n'aille pas dans les caisses des grands groupes et des banques, mais qu'il serve à construire des choses utiles à la population.
Avec peut-être, ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, une maîtrise foncière, qui est un système qui permette d'abaisser les coûts du foncier, de réduire ce qu'on appelle la charge foncière et le coût de production du logement pour qu'il soit réellement accessible et qu'il ne soit pas dans le système de l'économie de marché.
Ben nous, un aspect, on pense, qui serait fondamental, ce serait de supprimer le secret des affaires. Parce que, vous comprenez, sur la spéculation, etc., en réalité, il nous offre... quelqu'un qui a du foncier, etc., à quel prix il va le vendre? Quelle est la transparence là-dedans? En réalité, il n'y a aucune transparence. Donc, quand ils offrent un prix, ils nous disent « oui, c'est le marché ». En réalité, on n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien. Et tout le capitalisme, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes d'affaires, ils font leur business comme ça. Et ils se protègent derrière le secret des affaires, en fait, qui est pour la population, qui est pour le bon peuple, ou les salariés. Par exemple, si on revient à l'exemple d'Alstom, c'est évident que depuis des mois et des mois et des mois, c'est dans les tuyaux, tout ça. Ils le connaissaient. Et là, du jour au lendemain, on dit aux salariés, vous allez perdre votre boulot. Et on les met au pied du mur. Et bien, en fait, c'est comme ça tout le temps, le capitalisme. Et nous, on pense que quelque chose qui est important, qui est vital, qu'il faudra qu'on impose, ce serait que tout soit transparent. Qu'il n'y ait plus de secret des affaires, plus de secret industriel, plus de secret commercial. Et là, on serait sacrément fort. On connaîtrait notre ennemi, et c'est comme ça qu'on pourra le battre.
Alors, avant de parler de la fête de lutte ouvrière, je voudrais avoir votre sentiment sur un phénomène qui devient vraiment inquiétant, enfin, qui occupe les médias, même les pensées des gens, parce que nous vivons dans un état d'urgence. Comment interprétez-vous l'origine du terrorisme, de cette vague de terrorisme qui s'abat sur la France et qui constitue une menace permanente? Pour vous, c'est vraiment un phénomène important? porté, enfin, c'est inévitable, c'est la conséquence de la fatalité, ou bien est-ce que vous en attribuez la responsabilité à une politique particulière du gouvernement français?
Ah bah oui, totalement. Enfin, on ne peut pas mener des guerres dans le monde entier. Pas pour l'intérêt des populations qui sont là-bas, c'est pour des intérêts financiers, pour des intérêts économiques. Et on ne peut pas mener au nom de la France, puisque c'est toujours au nom de la France qu'ils le font. Ils disent pas on va en Irak au nom de Bouygues pour la construction, ils disent on y va au nom de la France. Que ça soit Hollande, que ça soit Sarkozy, ils ont une politique d'intervention pour défendre les intérêts économiques et financiers, pas de la France, des capitalistes. Mais ils le font au nom de la France. Au bout d'un moment, cette situation, on peut pas amener la guerre au nom de la France dans le monde entier et ne pas avoir de conséquences, d'avoir un retour de bâton. Et malheureusement, le retour de bâton, c'est la population de ce pays qui l'a subi, parce que c'est pas les responsables qui sont attaqués par les terroristes, parce que les terroristes ils sont dans la même logique que nos dirigeants, c'est-à-dire que pour eux la population c'est une façon de massacrer des gens dans les rues, que ce soit à Paris ou que ce soit en Irak ou à Bagdad, c'est la même façon, c'est sa façon donc qu'ils luttent entre eux. Et nous on a toujours été contre ces guerres. On voit même si on se posait la question de l'efficacité, on aurait la preuve contraire, parce que au moment de 2001, il y avait soi-disant deux foyers de terrorisme, c'était l'Irak et l'Afghanistan. L'Irak et l'Afghanistan, on nous disait, si on intervient là-bas, ça va régler le problème du terrorisme. Résultat, en 2016, c'est pas deux foyers qu'il y a de terrorisme, il y en a dans le monde entier. Et malheureusement, les conséquences, elles tombent aussi ici en France, avec des actes inqualifiables de terrorisme, parce que le terrorisme, il est injustifiable dans tous les cas. Mais voilà, nous on pense que c'est vraiment cette politique-là. Et à chaque fois qu'il y a un attentat en France, que dit Hollande? C'est qu'il va intensifier les frappes en Syrie, en Irak. Non, nous on s'élève complètement contre cette politique guerrière. Et si on veut, si on veut lutter contre le terrorisme, il faut déjà arrêter d'intervenir dans ces pays-là, parce qu'on n'y va pas pour défendre les populations. Ça, c'est le mensonge habituel pour intervenir dans un pays. C'est bien pour des intérêts économiques, et c'est tout.
Ouais, selon le modèle défini par nos amis américains et qui, pour eux, fonctionne bien depuis pas mal d'années, depuis une quinzaine d'années.
Alors, c'est vrai que les États-Unis, au Moyen-Orient, c'est eux les grands, c'est les rois du pétrole. Donc, c'est sûr que c'est eux. Et ceci dit, là, il y a eu un rapport du Parlement britannique qui est sorti sur l'intervention, c'est Sarkozy qui avait insisté, de l'État français. Et le rapport, je ne sais pas si vous avez écouté, c'est révoltant. C'est écrit noir sur blanc qu'en fait, l'impérialisme français, l'État, voulait augmenter son influence au Maghreb, voulait avoir deux meilleures parts de marché pour le pétrole. En fait, grosso modo, ce que Sarkozy avait en intervenant en Libye, c'était pas de lutter contre le terrorisme et d'aider le pauvre Libyen qui allait se faire massacrer par Kadhafi. Ce qu'il y avait derrière, c'était peut-être Total, qui voulait prendre des parts de marché à son concurrent italien. Et en réalité, toutes ces guerres, elles sont là pour ça. En fait, c'est des guerres qui sont, nous on dit des guerres impérialistes, c'est des guerres en fait qui sont là pour remanier les cartes, pour que tel grand groupe ou tel autre grand groupe, effectivement comme Total, puisse avoir accès à une part de marché. Et comme dans toutes les guerres, c'est le troufion qui se fait trouer la peau. C'est le petit soldat, c'est le civil, que ça soit en Libye ou ici. C'est les petits, c'est pas les généraux, les hauts gradés de l'état-major qui se font trouver la peau.
Et ça fait 100 ans que ça dure en ce qui concerne les régions de production pétrolière. Nous allons passer maintenant à un sujet un petit peu plus détendu, encore que, évidemment, il y a une dimension politique importante. C'est votre fête le week-end prochain. C'est samedi et dimanche, samedi 24 septembre. À partir de 17h. Et puis dimanche 25, le lendemain, 11h30, jusqu'à 19h, à l'Espace Mosaïque, à Saint-Priest. Alors, le programme comporte des une affiche
très unique, variée,
très variée, ouais. Avec de la musique, avec du théâtre, non?
Alors on a un spectacle de théâtre le samedi soir. Donc c'est une troupe marseillaise qui vient, qui s'appelle, la troupe s'appelle El Cabaret. Donc ils font un spectacle, L'homme est bon mais meilleur est le veau. Donc c'est un spectacle musical. C'est inspiré du théâtre de Bertolt Brecht. C'est-à-dire que c'est un théâtre un peu engagé, dénonciateur, et qui à la fois est loufoque, est extrêmement rigolo, avec de la musique jouée en live, avec différents instruments, du piano, de la batterie, de la guitare. C'est quelque chose de très dynamique. Et voilà. Et après, il y a d'autres spectacles tout le long. Le dimanche, on a Philippe Bruno, donc, qui va venir jouer. On a aussi un guitariste qui vient et qui fait chanter avec un karaoké live, voilà, qui s'appelle Nana Rockstar. Et différents spectacles tout le long de la fête, quoi.
Et Bonnet M, Folk et Disco, c'est un pastiche de Bonnie M.
Exactement, donc c'est un pastiche du parodique de Bonnet M. Donc c'est un peu des standards des musiques de bal, revues, revisitées, avec l'idée de faire à la fois rire et danser sur les morceaux de Dalida, de Claude François, ou de Bonnet M.
Voilà. Alors il y a une chose qui est très intéressante chaque année, c'est sous chapiteau, enfin sous une toile de tente, c'est la science en scène. Mm-hmm. C'est des films scientifiques, c'est ça?
C'est plutôt des exposés. Et puis des exposés sur des sujets, là. Par exemple, il y a sur les OGM, il y a aussi sur la grotte Chauvet, là, qui, voilà. Et c'est une façon, parce que pour nous, c'est important que la science, que ça soit pas réservé à une élite, que je pense que tout le monde doit pouvoir y avoir accès, et notamment parce que ça, quand on voit dans la période actuelle le retour des idées réactionnaires, voire obscurantistes, qui sont qu'on voit de partout, hein, c'est aussi important que ces idées de défense de la science, de la science, que ce que ça peut apporter, c'est important qu'une organisation ouvrière révolutionnaire, elle les donne aussi, elle puisse en parler et les vulgariser. Voilà.
Alors il y aura aussi des expositions, donc 1936, le Sursaut ouvrier, voilà. Il y a la Syrie, le Moyen-Orient, le drame des migrants dont on a parlé tout à l'heure, le mouvement contre la loi travail, donc tous les sujets d'actualité, toutes les luttes actuelles, des vidéos, des documentaires, d'une présentation de romans, donc une librairie évidemment très très engagée comme chaque année, et puis une allocution de Nathalie Arthaud, qui est votre candidate le samedi à 20h30. Dimanche à 16h, ce sera une allocution de Vincent Goutani, qui est le porte-parole régional de Hello. Et tout ça se tient donc le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre à l'espace Mosaïque pour un prix modique de
7 euros
pour les deux jours. Et si vous arrivez, si vous prenez votre billet sur place, 10 euros. Autrement, adressez-vous aux militants de Lutte ouvrière, vous allez croiser sur votre chemin, particulièrement sur les marchés.
Voilà, sur les marchés, on y est.
Merci messieurs de votre visite. Merci. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Alors entre-temps, on peut inviter les gens à aller faire un petit tour à Saint-Priest, à la salle Le Concorde, où là, c'est Radio Pluriel qui mène le bal. Nous avons notre soirée anniversaire avec une somptueuse affiche. Donc, qu'on se le dise, ça permettra aussi de prolonger le plaisir musical de la fête de Hello, et avant de rattaquer la réflexion politique le lendemain.
C'est toute la nuit, alors, la 35 ans de Radio Pluriel. Toute la
absolument,
nuit.
Donc c'est samedi soir, et ça va se prolonger un petit peu au-delà de minuit, j'espère.